Vous écoutez RTL. Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Emmanuel Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat Durable. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Et bienvenue à tous donc dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Emmanuel Cosse.
Bonjour.
C'est votre première grande émission politique depuis que vous êtes ministre du Logement et de l'Habitat Durable. Les Français vous connaissent encore mal, vous avez la réputation d'être plutôt direct, plutôt clair. Alors on compte évidemment sur votre franchise d'ici à 13h30. Pourquoi être rentré au gouvernement? Qu'êtes-vous allé faire dans cette galère? Disent certains de vos amis ou adversaires. C'est selon la loi El Khomri, les migrants, Calais, Notre Dame-des-Landes, le nucléaire après les déclarations de Ségolène Royal cette semaine. Autant de questions pour vous. Et puis le logement en 14 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la vie des Français dans ce domaine et sans compromettre pour autant la légère reprise dans ce secteur? Pour vous interroger, Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro.
Bonjour.
Et
bonjour.
Julien Arnaud de TF1 et LCI.
Bonjour.
Et puis Benoît Galeret, qui est notre vigie précieuse sur les réseaux sociaux. Benoît, vous viendrez poser vos petites questions bonus tout à l'heure.
C'est cela, enfin, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles que les internautes pourront nous poser avec le hashtag Le Grand Jury, tout attaché. Et en effet, je vais surveiller ça de près, et puis je viendrai recycler les meilleurs en fin d'émission.
Merci Benoît, tout à l'heure, hashtag Le Grand Jury. Emmanuel Cosse, vous êtes heureuse dans votre nouveau métier, après ce remaniement très bricolé, comme on l'a dit?
Je le suis, évidemment. Je ne parlerai pas de bonheur ou d'être heureux, mais simplement d'être extrêmement honoré qu'on m'ait confié cette responsabilité et en même temps très engagé pour y répondre. Et je vous le dis franchement, à partir du moment où j'avais pris la décision d'accepter la proposition du président de la République, je suis à 100% dans ce rôle de ministre et à 100% engagé.
Alors vos amis les Verts vous ont traité de traître, hein, ça ne vous a pas échappé. Vous répondez « je garde ma conscience ». De ce point de vue-là, vous avez la conscience tranquille?
Je l'ai absolument, j'ai ma conscience tranquille. Et pour tout vous dire, dans le public aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui sont écologistes et qui, je pense, par la présence, expliquent aussi qu'ils sont un certain nombre à avoir la conscience tranquille d'être là aujourd'hui. Je le dis parce que moi, je peux comprendre que le parti que j'ai dirigé, qui ne voulait plus avoir de débat sur cette question du retour ou pas des écologistes au gouvernement, qui ne voulait plus avoir ce débat, qui l'a empêché, je peux comprendre qu'une majorité des membres de ce parti n'ait pas soutenu mon choix. Mais je ne l'ai fait ni en traîtrise et je ne l'ai pas fait en abandonnant mes convictions. Je l'ai fait pour répondre à une responsabilité très forte. On est à 14 mois de la fin d'un mandat. On sort d'élections régionales où, quand même, je vous le rappelle, le Front National a fait des scores extrêmement importants. La gauche a été absente de 3 régions au second tour. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il faut se remuer, il faut se bouger. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai répondu, que j'ai voulu le faire.
Alexis,
mais, oui, mais vous-même, cet été, vous disiez à la journaliste Vanessa Schneider, vous disiez « je ne veux pas choisir entre le hollandisme mou à la placer et la volonté de casser la gauche comme Cécile Duflot ». Et finalement, vous avez choisi les deux. Alors, vous avez rejoint Hollande avec Placé et la gauche.
Moi, je m'appelle Emmanuel Cosse. Et je me suis toujours appelée Emmanuel Cosse et j'ai toujours, je pense, à partir du moment où j'ai pris des responsabilités politiques, toujours défendu ma ligne. Et ça a toujours été le cas. Et y compris quand j'ai fait le choix de répondre à la demande du président de la République, je l'ai fait sur mes convictions. Et je n'ai pas l'impression d'avoir rejoint ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression d'avoir rejoint une équipe qui est très mobilisée aujourd'hui, qui a lancé des chantiers extrêmement importants, et c'est pour ça que je l'ai fait.
Mais qu'est-ce qui a changé entre cet été où vous disiez « je ne veux pas du hollandisme mou »
Je crois que vous avez mal lu cette interview, qui était d'ailleurs plutôt un portrait. Je parlais d'une manière de se positionner politiquement. Moi, je suis quelqu'un qui s'est construit dans une famille de politiques, les écologistes. Je suis quelqu'un qui a toujours pensé qu'il fallait que la gauche aille ensemble avec sa diversité, qu'il y ait des socialistes, des écologistes, des communistes, des gens qui se désignent peut-être autrement. Il faut se mobiliser ensemble et il faut faire vivre cette diversité. Et moi, je ne me satisfais pas d'un monde où on est soit tous ensemble d'accord, soit tous contre les autres. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs que je vous le rappelle, dans mon mandat de secrétaire national, j'ai toujours œuvré à ce qu'il y ait toujours des liens, des lignes, des projets communs entre ces familles politiques. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités. On peut aussi se dire très tranquillement, ok, je ne fais rien, j'attends que ça se passe. Sauf qu'après, qui est légitime dans ce cas-là à défendre l'écologie au gouvernement? Qui va se battre un moment pour avoir des arbitrages? Qui va répondre à des individus qui nous saisissent tous les jours? C'est pour ça que je l'ai fait.
Oui, mais vous parlez,
et je le dis franchement, je l'ai fait avec ma conscience pour répondre à votre question, avec mes idées et aussi avec ma force de travail.
Alors, Julien Arnaud.
Quand vous avez rejoint le gouvernement, les porte-parole de votre parti ont publié un communiqué où ils disent que la politique gouvernementale est incompatible avec des orientations écologistes, de justice sociale, solidaire et à même de construire une société apaisée. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ce diagnostic qu'ils ont porté à ce moment-là?
Évidemment, parce que la politique du gouvernement est celle que l'on en fait.
Et elle vous convient, la politique actuelle?
La politique du gouvernement est celle que l'on en fait. Nous avons fait le choix dans ce parti, ELV, de quitter un gouvernement en 2014. Ou plutôt, on nous a imposé de partir de ce gouvernement.
Qui vous a imposé?
Je vous le savais très bien.
Cécile Duflot.
Vous le savez très bien. Et nous avons donc refusé de prendre la responsabilité du ministère de l'Environnement et de l'Écologie.
Mais la majorité a voté dans le parti.
Vous le savez très bien. Pour des écologistes, refuser un tel poste, cela dit des choses. Nous avons fait ce choix-là. Il a été assumé. Je l'ai assumé pendant 2 ans. On peut aussi regarder, au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vraiment...
C'était une erreur?
Est-ce que je ne pourrais pas dire ça, mais la réalité, c'est que les arbitrages, les dossiers, on les porte mieux quand on est aux manettes, sincèrement, et quand on est dans l'action. Et c'est là-dessus qu'il faut bouger. Après, les porte-paroles de LV peuvent avoir leur point de vue. Moi, je regrette simplement qu'il n'ait pas eu le courage de lancer un débat national sur le sujet au sein d'un parti politique. Sauf que c'était un sujet tabou qu'on ne pouvait plus aborder. Et moi, je ne crois pas que dans un moment politique où l'extrême droite peut réaliser des scores qui dépassent 40% dans certaines régions, je ne crois pas qu'on peut avoir des tabous dans les débats dans nos familles politiques.
Alors, y a pas
et
de
c'est
tabou.
Pour ça que je l'ai ouvert.
Il n'y a pas de tabou, vous le disiez, on va parler de la loi El Khomri. Toujours sur ces questions de conviction. Entre un Manuel Valls qui... à l'épreuve de cette loi El Khomri. Il veut réformer coûte que coûte, il l'a dit. Je resterai au gouvernement tant que je peux réformer. Et un Danny Cohn-Bendit, que vous connaissez parfaitement bien, qui lui dit trop, c'est trop. Vos convictions, elles vous situent où? Du côté de Manuel Valls?
Évidemment, de toute manière, je suis membre d'un gouvernement dirigé par Manuel Valls. Donc je ne suis pas venue dans ce gouvernement pour être déloyale envers lui et déloyale envers sa volonté de réformer. Aujourd'hui, puisque vous parlez...
Mais on parlait de conviction.
Mais oui, on parle de conviction.
En matière économique et sociale.
On parle de conviction. Mais... Je peux avoir des convictions, et y compris avoir des nuances par rapport à tel ou tel sujet. Mais je ne vais pas avoir des désaccords avec un Premier ministre qui veut réformer son pays. Encore heureux qu'on a quand même un Premier ministre qui dit ça. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas si on a un Premier ministre qui dit « Écoutez, moi je ne vais rien faire pendant 5 ans ». Non mais sincèrement, on ne peut pas faire des procès à Manuel Valls de ce côté-là.
Ça dépend dans quel sens engagé... va la réforme. Il y a plein de gens de votre camp et de gauche c'est très mal, cette loi El Khomri, c'est la précarisation, etc.
Je vous propose qu'on continue. Maintenant, il y a un débat très important qui est aujourd'hui sur la loi El Khomri. Et moi, je pense qu'on peut regarder les choses un peu simplement. D'une part, il y a une inquiétude très forte et elle est compréhensible. Moi, je connais ce que ça veut dire que de perdre son emploi. J'ai connu le chômage, j'ai connu les licenciements, j'ai même connu la liquidation judiciaire. Je veux dire que je sais ce que c'est que la fragilité de l'emploi. Je n'ai pas été toute ma vie dans la politique.
Il y a des inquiétudes sur la sécurisation, sur la flexibilité.
Il y a des inquiétudes de tout le monde sur est-ce que ma situation dans l'emploi va s'améliorer ou va au contraire devenir trop fragile. Est-ce que mes enfants vont rentrer dans l'emploi à un âge correct? Ou est-ce qu'ils vont rentrer extrêmement tard? Donc l'inquiétude, elle est normale dans un monde qui est très insécurisant.
Mais vous la soutenez, cette
loi, est équilibrée ou pas?
C'est très insécurisant. Mais maintenant, regardons les choses. Aujourd'hui, on a une mobilisation très forte qui se cristallise sur un avant-projet de loi. Et je vous le rappelle, depuis un moment, ça a été demandé par les syndicats, c'était dit par ailleurs par plusieurs ministres, il faut trouver un dialogue important avec les forces syndicales. Donc le gouvernement et le Premier ministre et le Président de la République ont fait le choix de prendre 15 jours supplémentaires pour avoir une discussion avec l'ensemble des forces syndicales. Alors, ce matin, dans le journal du dimanche, le Premier ministre dit des choses extrêmement claires sur le fait qu'il est prêt à avancer sur un grand nombre de sujets. Ça s'appelle juste une méthode de travail, et moi je la trouve très bien. Et c'est normal qu'on arrive, il me semble, à un dialogue important entre le gouvernement et les forces syndicales, parce qu'objectivement, c'est comme ça qu'on aura un texte de loi qui pourrait être présenté en Conseil des ministres.
On va discuter des modalités, des points de la loi. Mais sur le principe de la loi, il est quand même assez clair. C'est il faut davantage de flexibilité pour faire tomber les obstacles à l'embauche. Est-ce que vous êtes pour ça?
Il faut davantage. Pour moi, est-ce que je lis dans ce texte de loi, cet avant-projet de loi plutôt, ce que j'y lis, c'est il faut plus de souplesse dans un certain nombre de sujets. Il faut mettre plus de démocratie dans le monde de l'emploi, parce qu'excusez-moi, une des mesures phares, c'est la question des référendums au sein des entreprises, de la négociation par entreprise. Et si vous lisez par exemple le livre de Laurent Berger, qui dirige la CFDT, qui a publié un livre il y a quelques mois. Laurent Berger est contre un certain nombre de dispositions. Il est très pour, je vais vous dire. Relisez son livre, je vous y invite.
Il était ici.
Exactement. Et il est très pour sur le dialogue au sein des entreprises et sur le fait que l'on augmente.
Il est très contre le plafonnement, par exemple, du barème des prud'hommes. Alors, est-ce que sur cette mesure-là,
excusez-moi,
vous dites qu'il a raison ?
Est-ce que simplement on peut essayer d'avoir un peu éviter la caricature ? Chaque syndicat a.
Chaque syndicat.
Si, non, vous dites Laurent Berger contre ce texte de loi, il est contre un certain nombre de dispositions et je le disais,
il appelle à ce qu'il y ait.
Oui, et il appelle en même temps à ce qu'il y ait beaucoup de dialogue dans le monde de l'entreprise. Moi, ce que je vois dans ce texte, dans cet avant-projet de loi, c'est d'une part de la souplesse dans un certain nombre de sujets et de la protection. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut répondre aux interrogations et y compris aux inquiétudes. Parce que oui, vous l'avez dit, il y a un sujet qui fait débat aujourd'hui, le plafonnement d'indemnité lorsque l'on va au prud'homme en cas de licenciement fautif. Mais ce n'est pas à moi de répondre ça. D'une part, je ne suis pas ministre du Travail, comme vous le savez. Et ensuite, il y a à partir de demain des négociations avec l'ensemble des forces syndicales pendant 15 jours.
Mais en tant que responsable politique, vous avez bien des convictions là-dessus.
J'ai dit tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de clair et de franc. Déjà, première question, est-ce qu'en l'état, avant qu'il arrive à la discussion, en l'état, ce texte vous convenait ou pas ?
Mais ce texte, mais vous êtes extraordinaire. Vous parlez d'un texte qui, en soi, n'existe pas. C'est un avant-projet de loi qui a été envoyé au Conseil d'État
sur ce texte.
Moi, ce que je souhaite, tout simplement, c'est qu'il y ait une élaboration en commun avec les forces syndicales qui permet d'arriver devant le Parlement avec cette force-là. Et c'est cela, en fait, qu'il faut construire.
Flou, c'est très vague.
Mais non, c'est pas flou, c'est absolument pas flou. Dans notre pays, ce n'est jamais le gouvernement qui décide tout seul des règles sur la question de l'emploi, sur l'indemnisation. On a des partenaires sociaux. Je pense que la première règle, c'est de respecter ces partenaires-là.
Est-ce qu'il les a respectés ? Est-ce qu'il n'a pas pris les choses à l'envers, le gouvernement ? Comment se retrouve-t-il aujourd'hui dans une situation analogue, pareil.
Ce qui est certain, c'est que maintenant, il faut remettre du dialogue.
Donc il a fait
il faut en remettre avec l'ensemble des Français et aussi expliquer des choses, sincèrement. On a un certain nombre de sujets, mais vous demandez au gouvernement de faire du dialogue avant même qu'il ait présenté son texte de loi. Excusez-moi, on peut quand même peut-être aussi lui laisser le temps de travailler, lui laisser le temps d'avoir les concertations.
Mais c'était pas prévu quand même.
Excusez-moi, le gouvernement a fait ce choix-là il y a maintenant plusieurs jours et maintenant il va avancer. Et encore heureux que dans ce gouvernement, et c'est ça aussi qui fait sa force, il y a une capacité, je suis désolée, à entendre ce qui se passe, à soulever des inquiétudes, à reprendre le dialogue avec les forces syndicales qui d'ailleurs n'avaient pas été rompues et à continuer. C'est extrêmement important.
On n'arrive pas à comprendre quand même sur le fond, si vous soutenez ou pas l'esprit de ce texte.
Je vous l'ai dit, oui, je soutiens le fait que l'on mette plus de souplesse et de protection dans le droit du travail. Parce que la réalité, dans notre pays, c'est qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont complètement bloquées à l'entrée du marché du travail. Ça, c'est une réalité. Des gens qui n'auront jamais l'accès au droit du travail, notamment
par
certaines rigidités.
Donc c'est un texte pour les jeunes, pour aider les jeunes ?
C'est pas que pour les jeunes, c'est pour des gens qui, par leur formation, qui par des ruptures dans leur formation et dans leur suivi scolaire, n'arrivent pas à rentrer dans le marché de l'emploi. Et c'est extrêmement difficile. C'est aussi toutes ces personnes qui ne vivent que de contrats extrêmement courts et qui n'arrivent pas à vivre dignement. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on avance et en même temps qu'on mette de la démocratie au sein de l'entreprise.
Alexis Très Moselle. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il faut assouplir, élargir les critères de licenciement économique ? C'est une des mesures de cette loi qui provoque beaucoup de réactions négatives à gauche. Est-ce que vous vous dites oui ? Il faut que finalement les licenciements soient plus faciles parce que ça fera tomber un certain nombre de freins à l'embauche.
Je pense qu'on ne peut pas avoir le débat uniquement en parlant des licenciements.
C'est un des points de la loi.
Vous êtes extraordinaire, je vais quand même essayer de terminer ma phrase. On ne peut pas uniquement parler du licenciement quand la question est de savoir si on peut faire entrer des gens dans l'emploi. Et aujourd'hui, il y a une disposition dans l'article 30 bis de cet avant-projet de loi qui en effet fait débat, parce qu'il semble ouvrir des conditions extrêmement larges et c'est ça qui a notamment créé de la rupture par certains forces syndicales et c'est pour ça qu'il faut y retravailler.
Donc vous n'êtes pas d'accord.
Mais comme je vous le dis, je ne suis pas ministre du Travail, ce n'est pas moi qui mène les négociations, c'est Myriam El Khomri. Il faut absolument que ça puisse se faire dans un climat apaisé et c'est pour ça qu'il faut ces 15 jours.
Mais vous incarnez donc gouvernement, c'est vrai, le courant écologiste Emmanuel Causse, mais vous n'avez plus aucune originalité sur les questions économiques et sociales.
Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Eh bien, ce que je dis, c'est-à-dire que écologiste s'est toujours positionné de façon originale.
Le courant écologiste, il ne s'est pas positionné de façon originale. Il a juste une conception de l'économie qui dit qu'on ne peut pas faire vivre l'économie sans regarder comment existe, les ressources naturelles et comment. Ouais. Eh bien oui, mais c'est ça l'écologie.
Non, mais sur les questions sociales.
C'est comment le système économique évite la prédation sur la nature, les ressources naturelles et aussi évidemment sur l'homme.
Allez, on termine sur la loi El Khomri.
Oui, il y a des appels à manifester évidemment la semaine prochaine, vous le savez, notamment de la part de l'UNEF ou de la FIDEL, les étudiants, les lycéens. Vous êtes une ancienne de la FIDEL. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de manifester ou est-ce qu'ils n'ont pas compris l'esprit de ce texte dont vous nous dites qu'il est destiné à la jeunesse?
Alors, j'étais à la FIDEL il y a 25 ans, donc
ça reste tout ça.
Oui, évidemment.
Ils ont tort aujourd'hui alors ?
Mais personne n'a tort, il y a des inquiétudes et que des personnes veuillent manifester.
Personne n'a tort, personne n'a raison.
Mais excusez-moi, franchement, il y a des gens qui ont des inquiétudes. Ils veulent manifester et dans notre pays, ce qui fait quand même la force de notre grande démocratie, c'est que des gens puissent manifester, s'exprimer, y compris faire des pétitions en ligne, y compris essayer d'avoir un débat sur cette loi et que ce texte de loi soit au cœur du débat politique, c'est très intéressant. Que les jeunes soient inquiets par rapport à l'emploi, je les comprends. Je les comprends parce qu'aujourd'hui, l'entrée dans l'emploi est très difficile. Je vous rappelle aussi que ces générations-là n'auront pas le même système de retraite que ceux de leurs parents, puisque la réforme de la retraite, et vous le savez, augmente d'années.
Sur la loi.
Mais je vous explique une globalité. Et la dernière chose, c'est que cette jeunesse-là, aujourd'hui, c'est un peu d'ailleurs comme ma génération, que nous aurons des multiples employeurs dans notre vie et pas un seul emploi. Par ailleurs, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, l'arrivée du numérique, l'arrivée de ce que ça veut dire dans le travail, dans comment ça modifie les rapports de subordination, dans comment ça modifie le contrat de travail, sont des sujets prégnants pour les jeunes. Et donc l'inquiétude, elle est normale, et maintenant c'est à nous, gouvernement, de répondre à ces inquiétudes, de les recevoir. Najat Vallaud-Belkacem, elle a reçu la semaine dernière les syndicats étudiants, ils ont discuté ensemble, ils vont continuer à le faire, et c'est tout, il faut trouver du dialogue, évidemment, et les rassurer. Et je pense que le CDI soit vraiment le contrat majoritaire pour des jeunes, c'est une première chose, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le CDI conditionne beaucoup de choses.
Mais vous avez raison, ce sont des questions fondamentales. Mais vous faites comme si, sur le plan politique, il n'y avait pas aujourd'hui une opposition réelle entre deux gauches, et notamment cristallisée sur cette loi El Khomri. Vous faites comme si ça n'existait pas,
comme si
vous ne vouliez pas. Par exemple, Manuel Valls et Martine Aubry se renvoient respectivement l'étiquette d'archaïque. Lequel est le plus ou le moins archaïque des deux?
Moi, vous savez...
Vous la connaissez bien, Martine Aubry.
Oui, je la connais bien, Martine Aubry, mais...
Ça vous a choqué, son trop c'est trop?
Non, ça ne m'a pas choquée. Je pense qu'elle exprimait quelque chose qu'elle ressent. Moi, je ne partage pas toutes les lignes de son texte et j'ai un peu trouvé que c'était des socialistes qui parlaient à d'autres socialistes, mais c'est que mon point de vue personnel. Après, elle exprime un certain nombre de sujets, y compris pas simplement sur la question économique. Et quand même, la force dans notre pays, c'est d'avoir cette capacité de dialogue. Moi, j'ai toujours pensé qu'y compris dans cette gauche, ce qui nous manquait parfois, c'est une capacité de dialogue où on pouvait se dire les choses sans être obligatoirement d'accord l'un avec l'autre, mais simplement trouver du dialogue. C'est ça aussi qui pourrait faire notre force et qui fera notre force, à mon avis, dans les échéances qui viennent. Donc elle avait tout à fait le droit d'exprimer ce qu'elle a dit, mais après, c'est aussi un problème qui se pose surtout au Parti Socialiste. Et comme vous le savez, je ne suis pas membre de ce parti.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu, de votre point de vue, en ce qui concerne Myriam El Khomri, qui a eu un petit malaise mardi, c'est une forme de... un peu de machisme dans la façon dont elle a été traitée cette semaine, la ministre du Travail?
Vous savez, je dirais
plus paternalisme.
Je dirais plus généralement que, et j'en fais l'expérience aujourd'hui, être jeune, déterminé, c'est pas très facile. Et être une femme quand vous êtes ministre, c'est en effet pas une chose si simple que ça.
Pourquoi vous en faites l'expérience ?
Parce que ça se voit, parce que ça se sent, parce que vous
arrivez... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ?
Mais non, mais vous arrivez dans des assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui ne sont pas des assemblées paritaires, où vous avez, quand vous avez 40 ans, que vous avez des personnes qui vous parlent, qui vous font la leçon parce qu'ils ont 40 ans de plus que vous. Excusez-moi. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, on a des femmes dans ce gouvernement. Je pense à Myriam El Khomri, je pense à Najat Vallaud-Belkacem et plein d'autres qui sont jeunes, qui sont engagées.
Il y a aussi plein de femmes contre la loi El Khomri.
Mais ce n'est pas ça le problème. Je vous explique qu'être une femme en politique, jeune, déterminée, essayer d'agir, je peux vous dire quand même que, et on est à quelques jours de la journée des droits des femmes, je peux vous dire quand même que le machisme en politique, c'est une réalité, que je l'ai vécu quand j'étais secrétaire nationale, que ça ne s'enlève pas quand vous
devenez... Même chez les Verts, c'est dur.
Mais bien sûr que c'est dur, même chez les Verts. Vous voulez que je vous rappelle qu'on a écrit que j'étais arrivée à cette position-là parce que j'avais bien couché ? Et ça a été dit par des camarades verts. Non, mais vous savez, le machisme en politique en France, c'est une réalité. Et tant qu'on ne dénoncera pas à chaque fois, tant qu'on ne rappellera pas les choses très clairement, tant qu'on ne dira pas, par exemple, aux journalistes d'arrêter d'appeler les femmes par leur prénom, alors qu'on appelle les hommes par leur nom.
Alors, Madame Cosse,
mais non, mais je ne parle pas pour on vous, mais vous savez très bien. C'est un sujet extrêmement important parce qu'à un moment, si on veut se battre pour la parité, pour l'égalité, si on veut vraiment, comme ça a été rappelé par Michel Sapin, qu'il y ait plus de femmes à la tête des conseils d'administration des entreprises du CAC 40, ça veut dire aussi qu'en politique, on doit être capable de faire la même chose. Et oui, il y a eu un certain machisme à expliquer que Myriam El Khomri était fragile, était faible, etc.
D'accord. Juste un mot sur les sondages qui montrent que 70% en gros des Français, c'est davantage à gauche, sont contre cette loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été mal préparée, mal vendue, mal expliquée,
comme
ou que les gens n'en veulent pas?
Comme je vous l'ai déjà dit, déjà on parle d'un avant-projet de loi, donc je pense que maintenant il y a un travail à faire sur le texte de loi qui sera présenté à l'issue des 15 jours de dialogue avec ces syndicats. Et ensuite,
70% quand même.
Et ensuite, je pense que c'est au gouvernement, évidemment, d'expliquer l'ensemble des mesures qu'il y a dans cette loi et pourquoi cette loi est jugée bonne par le gouvernement. Mais on est dans une phase où ce texte de loi, il est en train d'être discuté et d'être réécrit. Donc je vous propose qu'on ait ce débat-là.
Il faut le réécrire beaucoup.
Je vous propose qu'on ait ce débat-là quand les négociations avec
vous voulez des modifications profondes
seront terminées.
Est-ce que vous voulez des modifications profondes?
Mais je ne suis pas ministre du Travail. Vous êtes assez extraordinaire. Vous voulez que je donne mon point de vue sur un texte de loi qui est en cours de discussion avec les forces syndicales. Je pense qu'il faut écouter tout le monde, avancer avec eux et produire un texte de loi qui permette d'aller plus loin.
Vous n'êtes pas ministre du Travail, vous n'êtes pas non plus ministre de l'écologie. Cela dit, Ségolène Royal, qui l'est, a expliqué la semaine dernière que les centrales nucléaires pourraient être prolongées de 10 ans supplémentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je vous propose qu'on reprenne l'ensemble de sa déclaration, si vous me le permettez. Elle a rappelé en effet que l'on pourrait prolonger certaines centrales nucléaires dans le cadre du respect de la loi sur la transition énergétique et si et seulement si l'autorité de sûreté du nucléaire le validait. Mais non, mais ça change tout. Excusez-moi, ça change tout.
Mais ça fait quand même sauter au plafond David Cormand qui est votre successeur.
La loi sur la transition énergétique a expliqué qu'il fallait passer de 75% de part du nucléaire à 50% dans la production du mix électrique en 2025. Ce qui impliquait que des centrales soient fermées et que peut-être des centrales soient prolongées, puisque c'est une sortie progressive du nucléaire, et que nous aurons un certain nombre de centrales qui arriveront à 40 ans dans les années qui viennent, et que donc certaines pourraient être prolongées. Je dis bien « pourraient », parce que ce choix-là, il dépendra non pas de telle ou telle déclaration, mais un, de l'autorité de sûreté du nucléaire qui dira si oui ou non on peut faire des travaux, de l'État. Parce que je vous le rappelle, pour prolonger ces centrales, il va falloir mener des travaux sur chaque réacteur très important, qui coûte entre 3 et 5 milliards par réacteur. Nous avons actuellement 58 réacteurs. Et donc la question est de savoir si demain l'État et EDF souhaiteront mettre cet argent-là dans la prolongation de centrales, ou est-ce que l'État et EDF souhaiteront les mettre, par exemple, dans le développement des énergies renouvelables.
Mais vous dites qu'il faut quand même continuer, il faut fermer des centrales.
Mais ça fait partie de la loi transition énergétique.
Mais en fait, il faut le calendrier. Par exemple, Fessenheim, après la révélation d'ailleurs d'un incident nucléaire vendredi, les Allemands ont à nouveau exigé la fermeture de Fessenheim. Vous avez compris quand ce serait
Le calendrier, c'est celui que m'a répété à plusieurs reprises le président de la République. C'est 2016.
Cela dit, le président de la République, en 2011, vous 2016. Aviez tweeté « Hollande, il n'est pas crédible pour un sou sur le nucléaire ». Il est devenu crédible aujourd'hui.
Vous ressortez un tweet qui est lié au débat sur la primaire du
premier tour. On vous a beaucoup ressorti vos tweets.
Mais oui, on en a même inventé certains. Oui, on était en 2011 et vous savez, François Hollande, depuis 2011, a fait beaucoup de chemin sur la question du nucléaire et aussi sur la question du climat et je m'en réjouis. Pour répondre à votre question, Madame Martichoux, le président de la République s'est engagé à fermer Fessenheim d'ici la fin 2016. C'est ça la date?
La fin 2016, la fin de cette année-là.
Oui,
Fessenheim sera fermé d'ici la fin 2016.
Reprenez les déclarations.
Mais vous y croyez-vous?
Pas d'ici fin 2016.
Moi, j'ai toujours cru à la parole présidentielle
sur Emmanuel
Coste. On vous appelle Emmanuel Coste, mais on appelle toujours et les hommes et les femmes avec leur prénom. Parenthèse fermée. Ici, il n'y aura pas de fermeture de Fessenheim d'ici à 2016. Le processus, parce que le processus est extrêmement long techniquement.
Mais excusez-moi, fermer un réacteur, c'est la chose la plus simple qui faille. Et une décision prise par le conseil d'administration d'EDF, Ségolène Royal a demandé à M. Lévy, qui dirige EDF, de donner sa feuille de route en juin. Et après, le processus est assez simple pour arrêter un réacteur, je peux vous le dire.
Donc vous n'avez aucun doute là-dessus. Fessenheim sera fermé d'ici la fin 2016.
Le président de la République s'y est engagé, l'a répété en 2012, en 2013, en 2014, en 2015. Il l'a répété en début d'année.
Il lui est arrivé de revenir sur certaines choses qu'il avait dit.
Qu'est-ce qui empêchera la droite de rouvrir Fessenheim, puisque la plupart des candidats aujourd'hui affirment qu'ils ne veulent pas fermer Fessenheim? Alain Juppé, Nicolas Sarkozy.
Mais je pense que si ces candidats, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, regardaient vraiment de manière lucide la situation du nucléaire en France et en particulier la situation de la centrale de Fessenheim. Il se rendrait compte que le plus judicieux est de fermer cette centrale cette année. Pourquoi ? Parce que c'est la plus ancienne. Parce qu'elle est située sur la nappe phréatique la plus importante d'Europe. Parce que si demain il y a un incident, cela ne concerne pas simplement la France, cela concerne l'ensemble des pays frontaliers. Parce que cette centrale connaît des pannes à répétition quasiment chaque semaine. Et qu'à un moment, il faut savoir si vraiment on souhaite consacrer beaucoup d'énergie et d'argent sur cette centrale ou si on souhaite progressivement fermer les centrales.
Si on ferme Fessenheim, ça vous va ou bien ce que vous dites, il faut aussi en fermer d'autres ? Parce que pour tenir la
pour aboutir,
il en faut
fermer d'autres.
Qu'est-ce qu'il faut fermer comme autre centrale ? Combien ?
Pour aboutir à la baisse de la part du nucléaire d'ici 2025, il faudra fermer d'autres centrales. Il faudra fermer d'autres réacteurs, évidemment, sur plusieurs années. Ça fait partie justement de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va être présentée prochainement et sur laquelle le chemin est très clair.
Et même la semaine
prochaine. On va décroître. Non, ça a été reporté.
Ségolène Royal n'est pas très claire, elle, là-dessus. Elle a l'air de dire bon, EDF veut les garder.
La loi de transition énergétique est très claire. Il va falloir décroître la part du nucléaire et surtout, je vais vous dire, moi, ce qui me rend parfois extrêmement. Je suis extrêmement étonnée. Nous avons aujourd'hui des grands groupes énergétiques qui ont tous été façonnés par la question du nucléaire et par d'autres par le gaz. Nous avons devant nous un marché de l'énergie renouvelable qui est énorme, qui se développe dans énormément de pays européens. La réalité, c'est que si nos champions français ne vont pas le saisir, vous savez qui va le saisir dans notre territoire ? C'est d'autres champions. Et ils sont là aujourd'hui. Nous avons des tas d'entreprises européennes.
On est déjà en retard par rapport à nos voisins européens.
Oui, on est très en retard parce que par aveuglement sur le nucléaire, on ne veut pas aller chercher des marchés qui créent de l'emploi. On préfère que ce soit d'autres groupes énergétiques européens qui viennent les chercher.
Donc c'est l'Allemagne qui a raison ?
Il n'y a pas que les Allemands.
Les Allemands, ils font surtout du charbon. Et
sauf qu'ils ont baissé le charbon. Ils ont baissé le charbon. Et moi, je ne vous dis pas que le modèle allemand est ton modèle. Moi, je vous dis que mon modèle, c'est celui présenté par l'ADEME, l'agence française qui a présenté un scénario crédible qui montre qu'en 2050, nous pouvons être sur un schéma 100% énergie renouvelable. Et moi, je vous repose une question. Est-ce que vraiment on va engager l'ensemble des Français dans une poursuite du nucléaire et donc se pousser à dépenser entre 3 et 5 milliards par réacteur ? Est-ce que vraiment c'est ça le schéma à venir de l'énergie ? Ou est-ce qu'on va développer le solaire, le vent, l'hydraulique ?
Le fait même que vous posiez la question, Emmanuel Cos, prouve bien qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision.
C'est pas vrai.
On ne voit pas la
loi,
vision du gouvernement
la loi sur la transition
en termes d'écologie.
Non. La loi sur la transition énergétique est très claire.
Il y a eu encore un amendement cette semaine qui a failli être passé, et pour le coup, vous avez été active pour l'empêcher, qui donnait la possibilité aux industriels de faire peser sur le contribuable l'éventuel dégât écologique qu'il pouvait provoquer par son activité. C'était la fin du pollueur-payeur. Quand même, ça a failli passer.
Mais moi, déjà, je réfute totalement l'idée qu'il n'y aurait pas de cap sur l'écologie. La loi de transition énergétique, qui l'a fait adopter ? Ce gouvernement, avec, je vous le rappelle, l'ensemble des voix des écologistes.
Oui, mais c'est Ségolène Royal qui donne un signal cette année, avec cette semaine, avec le prolongement des
centrales
nucléaires.
Excusez-moi, mais moi, je ne fais pas de la communication. Moi, je regarde ce que dit la ministre de l'Environnement et je vais vous dire, heureusement que Ségolène Royal est à ce poste aujourd'hui et qu'elle est extrêmement claire là-dessus. Elle a dit simplement ce qu'il y avait dans la loi. Je suis désolée. Peut-être que certaines centrales vont se prolonger. Vous me parlez de la loi sur la biodiversité. Avec cet amendement qui aurait pu être présenté, parce que ce n'est pas une question de le voter, qui aurait pu être présenté sur le préjudice écolo, il a été écrit dans la précipitation. En effet, moi, j'ai dit qu'il n'avait pas de sens. Et ça, je l'ai dit dans mon point de vue personnel. Il a été retiré.
Et heureusement, vous l'avez dit, on se fait une petite pause et on se retrouve juste après. Encore beaucoup de sujets à aborder avec vous, notamment aussi votre politique du logement. A tout de suite, Emmanuel Cos, dans le grand jury RTL Le Figaro LCI.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Emmanuel Cos, ministre du Logement et de l'Habitat Durable. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brazet, directeur des rédactions du Figaro, et Julien Arnaud de TF1 et LCI. Emmanuel Cos, en même temps que vous êtes entré au gouvernement, le président a annoncé un référendum sur la question sensible de Notre-Dame-des-Landes. Quand vous avez parlé au président de votre entrée au gouvernement, vous avez demandé des précisions sur le périmètre du référendum ?
Non, absolument pas. Il m'a fait part du fait qu'il voulait lancer cette procédure et qu'il allait l'annoncer. Mais à partir du moment où il a fait ce choix-là, ce n'est pas à moi de rentrer dans les conditions de comment est-ce que ça se...
Mais ça n'a pas été une condition à votre arrivée ?
Absolument pas.
On a parlé d'un plat de toute façon.
J'y serais allée si... en fonction des discussions que j'ai eues politiquement et pour quoi y faire, et notamment dans la volonté d'occuper un poste ministériel où je puisse vraiment agir. Mais il n'y avait aucune
discussion. Ce référendum, c'est une bonne idée ? Sur le périmètre de la Loire-Atlantique, c'est une bonne idée ?
La réalité, c'est que ce projet est complètement bloqué. On parle d'un projet, je vous le rappelle, qui est là depuis 40 ans, avec une mobilisation extrêmement forte depuis maintenant près de 30 ans. Des recours juridiques qui sont encore en cours, hein, il y en a encore 17, et notamment des recours devant les instances européennes. Le président a fait un choix qui est de dire à un moment, il faut qu'on remette de la démocratie sur ce projet, donc de la consultation. Donc maintenant, c'est le Premier ministre, le président de la République qui vont mettre
mais
en œuvre.
Mais vous en pensez quoi ? Le référendum, c'est bien ? La loi Atlantique, c'est bien ?
Mais vous savez...
Non, vous voulez pas répondre.
Non, je veux pas répondre parce que ce n'est pas moi qui en charge ce référendum. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment, on en termine avec ce projet. Vous connaissez ma position. Je suis très opposée à cet aéroport. Je pense que ce n'est pas un projet utile aujourd'hui pour notre pays, y compris après la conférence sur le climat. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on remette du dialogue et donc de la consultation. Et si on peut faire voter les habitants de ce département sur ce projet...
Ceux ou ces départements, vous avez dit ?
Sur ce département,
la Loire-Atlantique.
La Loire-Atlantique. Alors,
après, vos anciens amis ou toujours amis verts qui disent c'est une arnaque, si on le fait que sur la Loire-Atlantique, évidemment.
Vous savez, je vais vous mettre à l'aise parce que je garde beaucoup de liens avec, y compris des paysans qui sont concernés par cet aéroport. J'ai tout entendu sur le périmètre. Il faut qu'il soit petit, il faut qu'il soit large, il faut qu'il soit national, il faut qu'il soit local. J'ai des avis dans tous les sens. Donc, la question, c'est qu'en fait, chacun pense que sa position est la meilleure parce que il permettra d'amener tel ou tel vote. Vous avez aussi les pro-aéroports qui ont chacun des positions différentes. Ceux qui
pour l'instant, les pro-aéroports, ils gagnent sur le périmètre de Loire-Atlantique.
58%.
Mais vous parlez d'un sondage. La réalité, c'est que moi, je ne sais pas du tout ce que donnerait cette consultation. Je pense qu'il est important qu'elle ait lieu. Je pense qu'il est important qu'elle ait lieu en ayant associé l'ensemble des partis au débat dans son organisation et que maintenant, c'est ça l'enjeu. Il faut qu'on utilise des outils comme la Commission nationale de débat public pour justement fixer quand ça se passe, à quelle date, comment, et que les gens puissent s'exprimer, et y compris puissent chacun apporter leurs arguments sur pourquoi est-ce qu'ils défendent ou pourquoi est-ce qu'ils s'opposent à ce projet d'aéroport.
Et juste si le oui à l'aéroport l'emporte, vous dites, eh ben d'accord, on arrête les manifestations.
De la même manière que Jean-Marc Ayrault a dit que si le non l'emportait, il accepterait la décision. La démocratie, c'est un moment d'accepter les décisions qui sont prises. Et je vais vous le dire, on parle souvent du référendum qui a eu lieu à plusieurs reprises en Allemagne sur certains sujets, y compris des sujets sur lesquels les écologistes n'étaient pas des fervents partisans. Nous avons, y compris quand nous étions en responsabilité, accepté le vote qui avait été...
Dernière question à ceux qui disent que vous êtes vendu pour un plat de lentilles, c'est-à-dire ce référendum qui, en réalité... effectivement, est une arnaque entre guillemets.
Mais vous savez, c'est déjà extraordinaire de penser que quand on accepte de rejoindre une équipe gouvernementale pour prendre des responsabilités, pour agir pour les Français et en premier s'occuper du logement, qui est, je pense, une des plus grandes préoccupations des Français. Je vais vous dire, c'est quand même assez fou que ça soit tout de suite l'opprobre et de penser que les gens n'y vont que pour un intérêt particulier. Je vais vous dire les choses très franchement. Je fais de la politique depuis plusieurs années. Si je voulais un confort dans ma vie, je ne ferais pas de politique. Je n'aurais pas dirigé le parti qui était le mien, qui était un poste, je vous le rappelle, extrêmement difficile, et je n'accepterai pas de m'attaquer à un sujet extrêmement important et en même temps difficile qui est la question du logement. Je le fais par conviction et surtout par engagement pour les autres. Moi, je pense que je suis assez altruiste, ma ville me l'a montré, et sincèrement, c'est un peu dur, en fait, de penser que les gens veulent nous réduire uniquement à des sous-intérêts particuliers au personnel. C'est vraiment pas mon cas.
Alors, le logement, on y arrive. Vous succédez à Sylvia Pinel, qui avait apporté un certain apaisement, entre guillemets, dans ce secteur. Les professionnels étaient traumatisés par la loi de Cécile Duflot quand elle avait été ministre. Il y a une légère reprise dans le secteur. Les professionnels du bâtiment s'en félicitent, mais sont un peu inquiets de ce que vous pourriez faire pour
le compromettre. Ils vous disent « ne cassez pas la reprise ».
Vous savez, les professionnels du bâtiment et de l'immobilier, je les ai tous reçus depuis que j'ai été nommée ministre. J'en connais un certain nombre parce que j'étais vice-présidente de la région Île-de-France en charge du logement jusqu'à décembre dernier. Donc ce n'est pas du tout un milieu qui m'est inconnu. On a aujourd'hui une période intéressante. On a des chiffres de la construction, de la vente et de l'augmentation des permis de construire extrêmement intéressants. Et en effet, aujourd'hui, il faut que l'on arrive à pérenniser ces chiffres-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire poursuivre ce qui a été lancé ces dernières années et amplifier certains sujets. Je pense notamment, et c'est un grand engagement du président de la République et je le soutiens absolument là-dessus, qui est l'ensemble des travaux de rénovation sur les logements.
Mais quand vous dites poursuivre, c'est poursuivre Duflot ou poursuivre Pinel, parce que les deux politiques étaient quand même très contradictoires.
Et je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai beaucoup soutenu Cécile Duflot quand elle était ministre du Logement. Je peux vous dire que ces deux politiques, c'est des politiques qui sont tout à fait proches. Sylvia Pinel a mis en œuvre la loi Allure de Cécile Duflot.
Ils ont totalement détricoté la loi. Ils n'en ont rien gardé.
C'est extraordinaire, vous savez. Peut-être qu'un jour, je ferai de la communication. Comme ça, j'inventerai des slogans. On a détricoté la loi Allure. C'est faux.
L'encadrement, il n'en reste pas grand-chose.
C'est faux.
La gueule.
Écoutez-moi, la loi Allure, c'est des centaines de mesures. C'est une centaine de décrets qui a été pris sur des tas de sujets. La modernisation des professions immobilières, le plan local d'urbanisme intercommunal, l'encadrement des loyers. Il y a aujourd'hui 18 observatoires des loyers dans les villes concernées.
Il n'y a que deux villes concernées. Et encore, il y a Paris
et Lille en 2018. C'est absolument faux. Il y a aujourd'hui Paris qui a mis en œuvre l'encadrement des loyers. Il y a 18 territoires qui aujourd'hui ont mis en place les observatoires des loyers.
Ça, on observe.
Et je vous le rappelle, pour pouvoir observer des loyers et l'encadrer, il nous faut plusieurs années de remontée de collecte.
Donc vous êtes pour encadrer davantage, d'étendre
Mais
le dispositif d'encadrement.
Mais je suis pour tout simplement faire ce qu'a fait Sylvia Pinel après Cécile Duflot, c'est soutenir l'ensemble des villes et des agglomérations qui souhaitent aller vers un encadrement des loyers. Ça veut dire quoi pour terminer? Un, on observe. Il faut plusieurs années. Il faut souvent au moins 2 ans de collecte de données. Grenoble est en cours. Lille est en cours. Mais il y a aussi des villes comme Besançon qui ont mis en place l'observatoire des loyers et d'autres.
En termes de méthode, vous êtes plus sur la méthode douce de Sylvia Pinel sur l'encadrement que sur la méthode on impose, on oblige.
Moi, je suis sur la méthode COS, excusez-moi, et celle que j'ai mise en œuvre quand j'étais à la région Île-de-France. Recevoir tout le monde, comprendre, les soutenir.
D'accord, mais ça veut dire
et
ça.
Agir tout simplement vite, parce que vous l'avez dit, nous sommes dans une fin de quinquennat. Il y a des sujets extrêmement importants. Est-ce que, par exemple, on va réussir à soutenir cette reprise? Comment on aide les professionnels du bâtiment à poursuivre leur engagement sur les travaux de rénovation énergétique?
Et alors, vous avez déjà une idée?
Absolument. Je me suis battue ces 2 dernières semaines et j'ai obtenu satisfaction pour que, par exemple, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, puisse avoir désormais un budget qui lui permette de passer de 50 000 à 70 000 logements traités par an dans son programme Habiter Mieux. C'est une augmentation de 40%. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée, après que et la Fédération française du bâtiment et la CAPEB, qui réunit l'ensemble des artisans du bâtiment, me disent on a besoin d'augmenter le nombre de travaux dans ce domaine-là.
Ça, c'est pour lutter contre la précarité énergétique
ça
dont
aide,
souffre, qui est un fléau pour beaucoup de Français.
Ça aide tous les propriétaires, soit bailleurs, soit occupants, qui ont des ressources faibles et qui n'ont pas les moyens de faire des travaux de réhabilitation énergétique. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est là le cœur de l'action pour notamment permettre à des gens de ne plus être précaires énergétiques et surtout d'améliorer leur patrimoine.
Et est-ce qu'il faut continuer d'alléger les normes, notamment les normes environnementales? Les professionnels s'en plaignent beaucoup, ils disent que ça coûte très très cher. Sylvia Pinel avait commencé à les alléger.
Sylvia Pinel a amélioré et simplifié des tas de normes sur la construction. Et ce n'est pas spécialement les normes environnementales.
Notamment.
Ce n'est pas les normes environnementales. On a commencé par des normes notamment sur des exigences de certification. Il y a la question des ascenseurs, il y a la question à partir du moment où vous avez des étages élevés. Il y a la question d'un certain nombre d'études qui sont préalables à la construction. On en a fait beaucoup, vous savez. On a fait passer 5 décrets de simplification. Il y a encore quelques sujets sur lesquels il faut aller, mais aujourd'hui, le sujet n'est plus vraiment là. Il faut surtout, moi je vais vous le dire, si on veut construire plus, que d'une part, on ait une mobilisation générale de l'ensemble des élus. Je suis ministre du Logement. Je mets en œuvre des politiques nationales avec des dispositifs qui peuvent aider les particuliers et les villes à construire. Mais celui qui tient le permis de construire à la fin, c'est le maire. Et la réalité, c'est que si nous n'avons pas cette mobilisation générale par les élus locaux et que tous acceptent de vraiment travailler, œuvrer à l'augmentation de les constructions, nous n'y arriverons pas. Et là-dessus, il y a eu...
Qu'est-ce que vous faire de plus que de faire cet appel à la mobilisation?
Faire ce que je fais avec les préfets, c'est-à-dire d'une part de rappeler aux maires récalcitrants qui n'appliquent pas la loi, qui doivent l'appliquer, et que s'ils ne l'appliquent pas, nous le ferons à leur place. Et ensuite, dans le prochain texte de loi Égalité Citoyenneté qui va arriver en Conseil des ministres début avril, nous allons renforcer les pouvoirs des préfets pour qu'ils se substituent aux maires. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais vous dire quelque chose, je trouve ça totalement fou que des élus de la République puissent se soustraire à l'application de la loi parce qu'ils ne veulent pas construire dans leur commune des logements. Ils le font très souvent de manière opposée au logement social, mais pas simplement. Moi, j'ai vu des maires, après les municipales en Île-de-France en 2014, arrêter des programmes, y compris de promotion privée, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas. Alors que c'est des programmes qui permettent à pas mal de personnes de vivre correctement et aussi de répondre à un sujet majeur qui est que les Français souffrent quand même d'un logement qui n'est pas assez de bonne qualité, et beaucoup de Français...
Et de mal logement, la Fondation Abbé Pierre a encore
répété cette semaine. Et beaucoup de Français consacrent plus de 30% de leur pouvoir
d'achat. Ces programmes servent souvent aussi à un autre obstacle, qui sont les recours juridiques. C'est-à-dire, dès qu'on lance un programme, il y a des tas d'associations justifiées ou non, de riverains qui ne veulent pas. Et souvent, les professionnels de l'immobilier et les maires disent, mais il faut des années et des années à cause de ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus.
Quand Cécile Duflot était ministre, il a été lancé des modifications très importantes sur les recours qui ont permis de réduire objectivement fortement le nombre de recours. Mais on a vu dans certaines régions, ce n'est pas encore assez suffisant. On a vu aussi qu'il y avait des menaces très fortes sur des professionnels. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec l'ensemble des syndicats de la promotion immobilière, notamment pour justement voir comment est-ce qu'on pourrait encore plus s'améliorer cet obstacle des recours juridiques qui sont en fait des recours fallacieux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Je voudrais revenir un petit peu sur le bilan de la loi Allure. Quand même, vous avez reçu tous les professionnels de l'immobilier. Ils ont dit depuis des mois tout le mal qu'ils avaient pensé de la politique de Cécile Duflot. Vous dites qu'il y a une continuité entre la politique de Cécile Duflot et Sylvia Pinel, mais c'est pas du tout ce que eux ils disent. Ils demandent une clarification en fait. Je reviens à la question d'Alexis, mais pardon, la réponse n'était pas claire. Vous vous situez plutôt dans quel camp ? Est-ce qu'il faut revenir à plus d'autorité sur l'encadrement des loyers
et
revenir à l'esprit initial de la loi Allure ?
Je vous explique les choses assez simples. La loi Allure a été adoptée en 2014, Sylvia Pinel l'a mis en œuvre et notamment a aidé l'ensemble des collectivités qui voulaient encadrer les loyers. Et je vais continuer à faire cela.
D'accord.
L'encadrement des loyers,
beaucoup plus proche
l'encadrement
de Sylvia Pinel
des loyers, je vous le rappelle, ne concerne déjà que une trentaine au maximum d'agglomérations sur le marché locatif français. Et encore faut-il que ces agglomérations veuillent se lancer dessus. Après, vous me parlez des professionnels. Je suis désolée, mais je les vois certainement un peu plus que vous dans la période.
Quand même.
J'ai encore vu les professionnels de la FNAIM, les dirigeants de la FNAIM, il y a 3 jours dans mon bureau, qui étaient les plus opposés à la loi Allure, qui disent néanmoins que pour eux, la survie de ce marché, et notamment le fait qu'il fonctionne bien, c'est d'avoir un observatoire public des données, parce que c'est justement comme ça...
Mais qui n'impose rien.
Mais excusez-moi, la première chose de l'encadrement des loyers, c'est d'observer. Il n'est pas normal que dans ce pays, nous n'ayons pas les données locatives qui ne nous permettent pas d'avoir de la transparence sur notamment
les loyers. Vous n'allez pas rétablir la garantie universelle des loyers.
Mais la garantie universelle des loyers, vous le savez, a été abandonnée sous Sylvia Pinel et il a été mis en place une nouvelle garantie qui s'appelle la garantie Visal, qui vise à aider les jeunes salariés.
Et donc vous en resterez à ce statu quo.
Nous sommes actuellement en train de travailler avec les partenaires d'Action Logement pour élargir son action, mais pour justement rester dans l'esprit de la garantie universelle des loyers, mais sur un autre dispositif.
On va parler de Calais. Vous occupez aussi de l'hébergement des réfugiés.
Bien sûr. Hein,
vous y êtes allée à Calais depuis que vous êtes ministre ?
Non, mais j'y suis allée plusieurs fois par le passé.
Est-ce que le gouvernement offre une place d'hébergement à tout réfugié expulsé de la jungle de Calais, comme les associations disent que non, que c'est un mensonge d'État ?
Absolument pas. D'une part, les personnes qui sont aujourd'hui à Calais ne sont pas expulsées. Il y a eu un objectif qui a été fait et qui a été mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur, qui est de réduire la place occupée par la jungle, donc en fait ce bidonville qui est dans la dune de Calais, que j'ai visité à plusieurs reprises, et donc de réduire cette emprise. C'est ce qu'on appelle la zone sud de la jungle, puisqu'il y a une zone nord qui, elle, n'est pas touchée. A été installée sur place des places provisoires d'hébergement, dont dans du modulaire, et à toutes les personnes aujourd'hui de la jungle, on propose en effet une place. Pour dire les choses très précisément, depuis octobre, il y a 2900 personnes qui sont sorties de la jungle de Calais et qui vivent dans ce qu'on appelle des CAO, des centres d'accueil et d'orientation qui sont partout en France, dans lesquels on présente sa demande d'asile. Et les chiffres que nous avons aujourd'hui, qui sont moins partiels que les chiffres qui ont été présentés par les associations il y a quelques jours, c'est que 80% des personnes qui vivent en CAO ont présenté leur demande d'asile. Ensuite,
mais les préfets disent qu'ils n'y restent pas, ils y passent quelques jours et puis ils retournent à Calais ou ailleurs.
Mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a des centres où en effet, il y a des gens qui sont repartis. Il faut regarder les choses un peu simplement. Vous avez des personnes, moi j'en ai rencontré beaucoup, hein, j'étais à Calais à plusieurs reprises, notamment en novembre dernier. Vous avez des personnes qui en fait sont sur la route de l'exil depuis 9 ans, 10 ans parfois, ont un seul but, qui est peut-être pas un but qui vous paraît à vous lucide, mais ils veulent aller en Angleterre, pour des tas de raisons.
Il y en a un quart qui ont déjà de la famille en Angleterre d'ailleurs.
Il y en a un certain nombre, mais il y a aussi des gens qui en fait, dans leur chemin de l'exil... Leur but, c'est construire petit à petit, et c'est l'Angleterre. Ils arrivent à Calais, ils n'ont qu'un seul but, c'est passer. Puis ils découvrent en fait qu'ils ne peuvent pas passer, pour des tas de raisons. Parce qu'évidemment, la frontière est extrêmement étanche, mais aussi parce que c'est très dangereux. Et donc la question, c'est quoi ? On laisse les gens vivre dans la boue, parce que c'est la réalité. J'ai été à Calais, j'y ai marché dans ce bidonville. J'ai y compris rendu visite à des gens que je connais, qui sont dans la jungle de Calais, qui y vivent depuis plusieurs années. Est-ce qu'on les laisse dans la boue ou est-ce qu'on leur propose de vivre dans d'autres conditions? C'est pour ça que la proposition a été faite, très simplement, d'offrir des places à chaque personne en CAO. En effet, d'offrir des places à toutes les personnes qui les demandent. Et il y en aura pour tout
alors,
le monde.
Il y a 85% de personnes qui demandent l'asile.
Absolument.
Il faut leur dire oui.
C'est pas à moi de répondre évidemment à cette question, non, sauf que
ça, ça fait partie. Alors ça, si c'est pas un socle de conviction sur lesquels vous
est-ce
pouvez...
que je peux juste terminer une phrase sans que tout de suite on me fasse un procès en conviction. Je ne connais pas leur dossier, mais évidemment que toutes les personnes qui répondent aux conditions de l'asile, il faut leur donner. Et je vais vous dire aussi pourquoi on se bat sur Calais. Moi, je vais vous dire la réalité. Il faut y aller à Calais. Moi, j'invite tout le monde à aller voir. Pas pour faire du tourisme militant.
Le président aussi doit y aller parce qu'il a effectivement des personnalités comme Xavier Bertrand lui disent d'y aller, il n'y va pas.
En tout cas, je peux vous dire qu'il suit fortement la situation.
Mais est-ce qu'il faut qu'il y aille à votre
avis ?
Je
pense que c'est lui qui prendra le choix à un moment d'y aller et je ne crois pas qu'il soit fermé à cela. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les personnes qui vivent à Calais ne vivent pas simplement dans le dénuement le plus terrible. Elles vivent aussi sous le joug des passeurs. Je peux vous raconter ce que c'est que la vie de gens qui doivent monnayer pour aller à la douche, aux douches qu'on a mis en place, doivent monnayer simplement pour ne pas être agressés sexuellement. C'est ça la réalité.
Et
pourquoi est-ce qu'on se bat
prostituer.
Il y a des femmes qui se prostituent, des enfants aussi. Pourquoi est-ce qu'on se bat pour sortir tous ces gens-là de ce bidonville? C'est aussi pour les sortir du joug des passeurs. Et notamment, le fait d'arriver en centre d'accueil et d'orientation. D'une part, vous avez d'autres interlocuteurs, notamment des travailleurs sociaux, et vous avez du temps pour poser la question, est-ce que je présente ou pas ma demande
d'asile? Il y a un minimum de confort, parce qu'il y a certains qui disent que dans ces CAO, c'est...
Mais c'est des centres d'hébergement, comme nous... Vous savez, nous logeons chaque nuit en dehors de ces centres, plus de 110 000 personnes par nuit en hébergement d'urgence. C'est des centres où on a un lit, où on peut se doucher, où on a accès aussi à des
Au-delà de Calais, Manuel Valls a eu raison de dire que la politique d'Angela Merkel n'était pas tenable.
Le discours de Munich.
D'une part, il n'a pas dit exactement cette expression-là.
Non, mais il a dit qu'il faut que la France, il faut que l'Europe arrête d'accueillir des réfugiés. Et ça a été répété, il ne l'a pas démenti.
Mais moi, je ne commande pas les propos soi-disant off du Premier ministre. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est face à un sujet majeur, qui est quand même extrêmement important, qui est qu'il y a une crise migratoire énorme. Il y a quand même eu un sommet. Je vais répondre. Un sommet britannique et un sommet franco-allemand sur le sujet. Et ce qui est certain, et je l'ai déjà dit et je le pense toujours, c'est que si l'Europe n'est pas capable de répondre à la crise migratoire et donc d'accueillir sur l'ensemble de son territoire européen ces migrants, ça veut dire que l'Europe n'a plus de sens.
Mais la France prend suffisamment sa part.
La France doit prendre
sa part. Il y en a beaucoup qui disent qu'à Bruxelles, on ne l'entend pas. On n'entend pas la voix de Paris.
La France s'est engagée.
Dossier qui est tellement important.
La France s'est engagée dans un premier temps à prendre 30 000 réfugiés relocalisés.
Il y en a 300 pour l'instant.
Et c'est pour ça qu'il faut accélérer. C'est pour cela qu'il faut évidemment accélérer et que moi je souhaite évidemment qu'on avance. Mais je le redis, sortir de la crise migratoire par le haut, ça veut dire que l'Europe montre qu'elle est digne de ce sujet. Et c'est notamment comme ça qu'on construit l'Europe.
Alors d'un mot très vite sur un sujet qui va revenir, sur lequel il y a juste une pause, c'est la déchéance de nationalité. Vous avez écrit en janvier que cette proposition faisait du mal à la société. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui?
Évidemment.
Vous le maintenez ?
Évidemment, et je suis très à l'aise avec cela, puisque j'en ai parlé et avec le président de la République et avec le Premier ministre. Ils connaissaient ma position avant de me proposer de rentrer au gouvernement. Ils connaissent ma position aujourd'hui. Et je les remercie aussi d'avoir accepté que je vienne avec cette idée-là et cette conviction-là, tout simplement.
Vous les remerciez d'accueillir votre désaccord autour de la table du Conseil des ministres.
Ce que je veux vous montrer par là, c'est que moi, je ne suis pas venue pour imposer mes idées au sein d'un gouvernement, mais je suis venue avec mes idées.
Bah parce qu'on se dit, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous entendent, et disent, effectivement, le logement, mais sinon...
Il ne faut pas avoir une conception caporaliste du pouvoir et du gouvernement. Être une équipe, et c'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous demandent d'être le président de la République et le Premier ministre, ça veut dire aussi travailler les uns avec les autres, ça veut dire aussi avoir ses propres points de vue, avoir cette diversité, et surtout être engagé pour les Français. Je crois que je le suis, et aussi, on ne m'a pas demandé de me renier en entrant dans le gouvernement, on m'a demandé d'être moi-même, mais d'être engagé pour ce gouvernement et pour ce pays. Et je crois que c'est ce que je fais aujourd'hui.
Je vous présente Benoît Galeret.
Bonjour.
De TF1 et LCI, qui regarde depuis tout à l'heure, et alors ?
Même depuis un peu plus que le début de l'émission, parce que ça a
été, c'est vrai, hein, compliqué pour vous sur les réseaux comme pour les écologistes qui ont rejoint le gouvernement. Il y a quand même Saladin, je vais vous le dire, qui dit « je ne connaissais pas Emmanuelle Cosse », mais je vois qu'elle se défend plutôt bien dans le grand jury. Avant cela, on vous avait accusé de trahir vos convictions, voire la cause écologiste. On vous promettait de regretter d'avoir rejoint le gouvernement de François Hollande. Il y en a un qui prend le problème à l'envers et qui vous demande si vous avez des nouvelles d'Europe Écologie Les Verts et si chez eux, on a commencé l'autocritique pour comprendre comment, au temps de leur cadre, passer du côté obscur. C'est lui qui l'écrit comme ça.
Des nouvelles, non, je n'en ai pas, hormis ce que je lis, ce que je lis dans les médias.
Vous n'en êtes plus membre ?
Si, je...
Oui, ils ont constaté votre démission.
Oui, mais sauf que je me suis mise en retraite, comme permettent les statuts, et semble-t-il, le bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts a préféré me démissionner. Écoutez... Moi, je suis arrivée dans ce gouvernement avec des choix et une réflexion. Je n'ai jamais fait ça contre mon parti. Je l'ai dirigé, je l'aime. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie dans ce parti, objectivement.
Parmi eux, Cécile Duflot ou pas ?
Mais bien sûr.
Démissionné, mais vous n'avez pas démissionné.
Non, je n'ai pas démissionné. Mais, alors, mais après...
À l'arrivée, vous êtes encore dans...
Je sais pas, vous savez, je pense que c'est au parti de régler ça et pas à moi. Ouais. Moi, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je me bats et je pense que c'est...
Et Cécile Duflot, vous avez eu un contact avec elle ?
Non.
Aucun, zéro.
Aucun.
Bon, vous le succédez après Pinel au logement. Et écoutez, un petit bonne chance. Fais attention à ma loi.
Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que moi j'arrive dans ce gouvernement pour vraiment défendre la question du logement et répondre à des difficultés importantes des Français. Je pense qu'on est vraiment en train de le faire. On va poursuivre cela.
Alors on va voir.
Autre remarque sur... on vous avait accusé de cumuler. Alors Geneviève vous le demande très clairement. Avez-vous mis fin à votre mandat de conseiller régional d'Île-de-France ? Pas de cumul d'indemnités pour les Verts, ça marche encore ?
Je n'ai pas mis fin à mon mandat de conseiller régional d'opposition pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand on est ministre, il est prévu des choses si on est parlementaire. Vous êtes remplacé par votre suppléant. Quand vous êtes dans un mandat local, en fait, rien n'est prévu. Vous pouvez juste démissionner. Que la réalité aujourd'hui, c'est que d'une part, si je démissionne, ce n'est pas un écologiste qui me remplace.
C'est quelqu'un de gauche. C'est un suivant de liste.
Mais c'est un suivant de liste qui n'est pas écologiste. Et en plus, ça veut dire que moi qui étais tête de liste dans cette élection régionale en Île-de-France, qui me suis battue pour des gens, qui ont voté pour moi, je me bats pour des idées, ça veut dire que je dois me retirer définitivement pendant 6 ans.
Vous avez toujours été contre le cumul.
J'ai été contre le cumul des mandats. Oui. Oui, je suis contre le cumul des mandats. Je ne suis pas pour le mandat unique. Hein. Je suis contre le cumul des mandats nationaux et des mandats locaux. Et moi, je vais vous dire franchement, c'est quand même dingue qu'en fait, comme on n'a pas prévu par la loi, alors que je pense que ça a été quand même dans le débat à l'époque sur le cumul, on n'a rien prévu. Ça veut donc dire que on me laisse qu'une seule position, c'est en fait me taire. Et moi, je vais vous dire en ce moment, dans cette région Île-de-France, désormais dirigée par la droite, qui par ailleurs va présenter la semaine prochaine plusieurs mesures pour détricoter les politiques que j'ai mises en œuvre en matière de logement, mais sur d'autres sujets, notamment sur l'aide aux personnes les plus défavorisées. Moi, je continue à vouloir travailler dans les groupes d'opposition dans cette région.
Vous avez le temps de faire les deux ?
Oui, évidemment que j'ai le temps.
Et vous ne trouvez pas ça du tout sur le plan des principes ?
Et sur le plan des indemnités, je n'ai jamais cherché à cumuler des indemnités qui sont certes importantes. Et je vais utiliser à bon escient mes indemnités de conseiller régional pour la cause écolo.
Alors, Benoît.
C'est noté. Encore une question de principe. Cette fois-ci, c'est Emmanuel qui vous dit « La loi Macron permet au gouvernement de réformer par ordonnance sur les sujets environnementaux. Est-ce que ça correspond à votre vision de la démocratie ?»
C'est vraiment un grand sujet parce que l'ordonnance est justifiée pour aller plus rapidement que la procédure parlementaire aujourd'hui. Il y a typiquement une ordonnance qui est en cours sur la question du débat public sur les grandes infrastructures et notamment sur la démocratie locale sur les sujets environnementaux. Et c'est vrai qu'on préférait toujours, à mon avis, qu'il y ait un débat à l'Assemblée. En même temps, pour dire les choses très sincèrement et sans attaquer personne, je pense qu'aujourd'hui, notre procédure parlementaire, il y a quand même un petit sujet en termes de manque de rapidité de l'adoption des textes par rapport au monde dans lequel on vit. Et de fait, aujourd'hui, le seul recours juridique qu'on a, c'est l'ordonnance. Ça ne veut pas dire que c'est le plus satisfaisant, mais en tout cas, il permet d'aller beaucoup plus vite. Et notamment, sur les simplifications dont vous me parliez tout à l'heure, tout est passé par ordonnance.
Alors, une dernière question,
oui,
Julien.
Oui, dernière chose, puisque vous parlez de démocratie. Est-ce que la primaire à gauche, c'est une bonne idée ? Est-ce que François Hollande doit s'y soumettre ?
La primaire est en tout cas une très bonne idée pour avoir enfin un débat à gauche. Qu'est-ce qu'on veut faire en 2017 ?
Avec François Hollande ?
Écoutez, je pense que c'est déjà à François Hollande de décider comment est-ce qu'il veut...
Vous pouvez là aussi faire un avis.
Emmanuel, moi, si les candidats, vous êtes dans son gouvernement, est-ce que vous le soutenez ?
Absolument.
Vous soutenez François Hollande s'il est candidat ?
Oui. Même si un candidat...
Ma mère dit, Hulot, ce sera un bon candidat, vous préférez Hollande à Hulot ?
pour représenter
Je vais vous dire les choses très honnêtement, parce que je suis une fervente soutien à Nicolas Hulot. Donc évidemment, si demain Nicolas Hulot me disait « Écoute, finalement, je veux aller à la présidentielle », je réfléchirais évidemment à vous de répondre à une question, parce que pour moi, c'est aujourd'hui un des seuls qui est capable de vraiment porter la cause écologique de manière large et de parler à tout le monde. Mais aujourd'hui, la question de savoir comment est-ce qu'on arrive en ordre plutôt organisé en 2017. Et donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui, un débat sur la primaire au sein de la gauche, des gauches et des écologistes, comme cela est dit, ça me semble utile pour avoir une dynamique aujourd'hui.
Il faut que l'on s'y soumette.
Vous savez, je pense qu'à un moment, il y a deux choses dans la primaire. Si, c'est utile. Avoir des débats sur qu'est-ce que veut porter ce groupe-là, aussi compliqué qu'il soit. Et ensuite, qui est-ce qui veut être candidat? On a déjà vu qu'un candidat déclaré, Jean-Luc Mélenchon, ne veut pas s'y soustraire. Mais je pense qu'une primaire, pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait beaucoup de candidats, évidemment.
Il veut s'y soustraire. Merci beaucoup, Emmanuel Cosse, d'avoir été notre invité au grand jury RTL Le Figaro LCI. Émission à retrouver en intégralité sur LCI de 18h30 à 19h30 et en replay. Les meilleurs moments sur RTL 18h15. Merci à vous, à la semaine prochaine. Merci Alexis, merci Julien. Au revoir, bonne semaine.